Avec Suno Assurance, pensez à renouveler votre assurance automobile et passez de belles fêtes de fin d'année avec vos proches, vos amis et vos connaissances. Suivez Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier d'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Ravie de vous retrouver pour cette deuxième émission de Priorité Santé, à l'occasion de laquelle nous allons aujourd'hui encore vous faire partager le quotidien de celles et de ceux qui travaillent et sont soignés ici à l'hôpital de référence de Panzi, au sud de la ville de Bukavu. Panzi, une structure associée depuis 20 ans déjà à un nom, celui du docteur Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix, gynécologue militant de la cause des femmes, qui avec son équipe, chirurgien, gynécologue, pédiatre, infirmière, psychiatre, psychologue, prend en charge les femmes victimes de violences sexuelles dans cette province du Sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. En 20 ans d'existence, l'hôpital a traité près de 100 000 femmes, plus de la moitié d'entre elles étant victimes de violences sexuelles. Une prise en charge holistique. Et nous allons comprendre au cours de cette émission ce que signifie cette approche globale. Hier, nous avons abordé avec nos invités la réparation des corps. Et aujourd'hui, nous allons nous attacher à décrire les prises en charge thérapeutiques et ateliers qui permettent la reconstruction psychique et sociale après les traumatismes subis. Si les traces dans la chair et l'intimité des femmes révulsent, les conséquences des violences sexuelles sont également catastrophiques en termes de santé mentale, d'estime de soi, de lien avec la communauté, corps et âme meurtri de ces femmes et filles du Congo qu'une équipe de soignants et de travailleurs sociaux soutiennent, écoutent et encouragent au quotidien. Aujourd'hui, nous vous proposons de les rencontrer. Prise en charge psychosociale des femmes victimes de violences dans l'est de la République démocratique du Congo. Quelles initiatives, quels soins ? Avec nous, docteur Philippe Amani-Boussané, bonjour.
Bonjour, Caroline.
Vous êtes psychiatre, chef de l'unité psychiatrique de l'hôpital général de référence de Panzi. Madame Rachel Kavira, bonjour.
Bonjour, Caroline.
Vous êtes psychologue, chef de service psychosocial ici à Panzi. Et avec nous également, docteur Patrick Koubouya, bonjour.
Bonjour, Caroline.
Vous êtes coordinateur médical du service survivante des violences sexuelles.
Priorité santé sur RFI.
Alors, bloc opératoire, scanner, radiologie, salle de consultation, l'hôpital de Panzi soigne les corps. Mais l'engagement des praticiens, l'offre de soins ne s'arrête pas là. C'est ce que nous allons découvrir au cours de cette émission. Les corps meurtris après des crimes qui parfois mutilent, des viols qui impliquent un risque de maladies sexuellement transmissibles, dont le VIH-Sida, de grossesses non désirées et au-delà, des handicaps, des maladies, les traumatismes psychologiques. Comment décrire cet état psychique des femmes prises en charge ici ? Docteur Amani Boussané, on ne peut pas généraliser, bien sûr, mais peut-être en citant des exemples, quelles sont ces atteintes psychiques que vous constatez chez les femmes qui arrivent ici après avoir subi des violences sexuelles ?
Ici, chez nous, nous recevons les femmes qui viennent de tout le coin. Et par rapport à ce que nous avons observé comme diagnostic, et c'est la dépression réactionnelle qui est en tête, suivie du stress post-traumatique et des troubles anxieux généralisés. Mais aussi, il y a des troubles de conversion et d'allure épileptiforme. Troubles de conversion, ça veut dire que c'est une femme qui arrive à l'hôpital, elle présente des symptômes somatiques organiques. Je prends l'exemple, elle peut arriver avec des convulsions, elle peut arriver avec des maux de tête, des douleurs épigastriques. Et nos amis somaticiens, ils vont explorer, ils ne vont rien trouver. Et quand ils vont envoyer chez nous le psychiatre, nous allons trouver que ce sont des symptômes de conversion. Donc c'est une souffrance psychique qui s'est convertie en symptômes organiques que les patientes vont présenter.
Donc des maux de ventre, des maux de tête. Vous avez aussi employé le mot d'épileptiforme. De quoi s'agit-il ?
Épileptiforme, ce sont des symptômes typiques à l'épilepsie que la patiente va présenter. Mais lorsque nous allons faire des explorations, nous n'allons rien objectiver, mais nous allons trouver qu'il y a une souffrance psychique intense qui s'est convertie.
Ça veut dire, pour les personnes qui assistent à ces manifestations, des convulsions, quel autre signe, quel autre symptôme ?
Oui, il y a des convulsions qu'elle peut présenter, il y a des pertes de mémoire que la patiente peut présenter, il y a au même les tableaux de coma que nous appelons des pseudo-coma. La patiente peut arriver dans un état qu'on va croire qu'elle est en coma, on l'amène aux urgences. Mais lorsque nous allons explorer à fond, nous allons trouver que le corps fonctionne normalement. Et là, nous allons nous poser la question, qu'est-ce qui se passe ? Mais lorsque nous allons parcourir son histoire, c'est là que nous allons objectiver qu'il y a une souffrance psychique liée au viol qui est en train de se convertir somatiquement.
Vous avez appris la psychiatrie ici, à Bukavu ?
Et la psychiatrie, j'ai appris au Sénégal, à l'université Cheikh Diop.
Et avant d'arriver ici à Bukavu, est-ce que vous saviez qu'un viol, ça pouvait faire ça sur l'esprit, sur la santé mentale des femmes ?
Effectivement, ça j'ai appris dans mes cours et en formation de spécialisation. Quand je faisais ma formation à Cheikh Anta Diop, j'étais à la clinique Moussa Diop de l'hôpital Fan. Et mes maîtres, le professeur Habib Cham et Aïda Silla, c'est eux qui nous ont appris comment les viols pouvaient entraîner une souffrance psychique et cette souffrance psychique à la longue pouvait se convertir en symptômes somatiques.
L'entretien psychologique, docteur Patrick Koubouya, c'est dès que la femme arrive à Panzi, est-ce que c'est au début de la prise en charge ? Il est programmé à quel stade ?
Et disons que quand la malade arrive, elle est reçue à la réception. Et la prise en charge psychosociale commence après le traitement médical. C'est qu'elle commence par le médical. Et puis, on l'emmène chez le psychologue. Et puis, le psychologue va peser par rapport à son état pour l'envoyer chez le psychiatre. Ou bien, la malade peut arriver et par rapport à son état, le médecin n'arrive pas à bien l'examiner. Là, avant l'examen, il demande l'avis du psychologue ou bien du psychiatre pour la suite de son examen.
Rachel Kavira, les femmes prises en charge ici, est-ce qu'elles ont l'idée justement qu'un psychologue, qu'un médecin qui n'est pas spécialiste du corps, mais bien de la santé mentale, ce médecin peut les aider ? Est-ce qu'elles savent même que ces médecins existent quand elles arrivent ici ?
Merci beaucoup Caroline. C'est une des GAP qui se retrouve ici chez nous. Vous savez que ce sont des femmes qui ont subi des traumatismes. Et ils ont subi des événements qui les ont mis dans un état de traumatisme. Et voilà que dès qu'ils arrivent, leur souci prioritaire, c'est d'abord le corps. Parce qu'ils sont en train de réfléchir toutes les douleurs qu'ils ressentent, des problèmes, des infections génitales. Et c'est ça la priorité pour ces femmes pour venir ici à Panzi. Voilà que nous sommes là, toute une équipe psychosociale. Donc on s'investit dans ces femmes. C'est-à-dire on explique les rôles que nous faisons. Et qu'après, ils vont maintenant intégrer et savoir qu'il y a des personnes qui sont à côté d'eux et qui vont maintenant les accompagner. Parce que là, nous devons maintenant créer une confiance entre nous et eux. C'est entrer dans la prise en charge, dans le débit et même dans l'entrevue d'accueil que nous faisons avec ces femmes pour expliquer les rôles d'un psychologue, les rôles d'un psychiatre et une psychoéducation par rapport à ce que ces femmes peuvent entrer dans la durée juste après les événements traumatiques.
Alors vous proposez l'offre de soins. Ensuite, il faut que ces femmes viennent vers vous.
Justement. Et ça, c'est avec l'aide des assistantes psychosociales que nous sommes avec eux, qui nous aide maintenant à référer ces cas vers nous et que nous, quand nous trouvons maintenant les besoins très prioritaires, on peut les référer soit chez un psychiatre, soit selon les besoins, mais aussi dans la prise en charge globale, on voit aussi la clinique juridique, on voit aussi tant d'autres besoins que la survivante peut toutefois exprimer.
Cette fonction de coordinateur, docteur Patrick Koubouya, quand est-ce que vous savez que la femme, finalement, est prête à se confier ?
Dès que la femme arrive, elle est reçue par une assistante psychosociale dans notre réception. Et là même, quand elle fait la fiche, on l'amène chez les médecins. Là, chez les médecins, elle exprime les besoins de voir soit le psychologue ou bien le psychiatre. Ou bien quand la malade arrive dans le bureau du médecin, une malade qui ne parle pas, qui fait le mutisme ou quoi, là, le médecin est incapable de l'écouter, de l'interroger. Il demande l'avis du psychiatre. Ou bien des malades qui viennent en état d'agitation, là, le médecin ne peut pas consulter dans cet état, il demande l'avis du psychiatre. Ou bien une malade qui a des propos incohérents et qui est trop agitée, Là, avant l'examen médical, le médecin l'envoie chez le psychiatre.
Retrouver le fil un jour après jour grâce à cette prise en charge psychologique tout de suite. Témoignage de cette survivante, elle s'appelle Déborah. Elle est arrivée à Panzi depuis 2 mois. Bonjour madame Djembo.
Djembo-san.
On va parler tout à l'heure de la prise en charge que vous avez reçue ici à Panzi. J'aimerais, si vous voulez bien, que vous me racontiez d'abord votre histoire.
J'habitais à Chabunda et nous étions dans les champs en train de cultiver avec mon mari. Les soldats sont arrivés, ils m'ont prise de force, ils m'ont violée à deux. Et quand le troisième a voulu me violer à son tour, mon mari a réagi. Ils lui ont tiré dessus, plusieurs balles dans la poitrine et il est mort. Ils m'ont encore violée et après on m'a tiré des balles dans la jambe. Et voilà la cicatrice.
Qui vous a attaqué ?
Des Hutus. Ils étaient habillés en tenue militaire. Je ne connais ni leur visage, ni leur nom.
Entre le moment où vous avez été donc agressé et le moment où vous êtes arrivé ici, qu'est-ce qu'il s'est passé ?
À cette époque, ma vie était très difficile. Je n'avais pas où dormir. Même chose pour mes enfants. Nulle part où dormir. Nous n'avions pas de quoi manger. J'étais également rejetée de la communauté. Je suis arrivée ici grâce à l'aide du docteur Mukwege, parce qu'il a des équipes mobiles qui vont dans les villages. Et quand ils ont appris ce que j'avais vécu, ces problèmes, ils m'ont amenée ici pour me soigner.
Vous êtes soignée pour votre corps, mais aussi pour aller mieux dans votre tête. Comment ça se passe ? Quelle aide vous recevez, justement, pour essayer de retrouver le goût à la vie et de continuer ?
Ici, chez le docteur Mukwege, la nourriture, le logement, les soins, tout ça c'est gratuit. Et vous voyez ce travail de couture, ça m'aide pour ma vie de demain.
Est-ce que vous saviez ce que c'était un psychologue avant de venir ici ?
Je ne savais pas que ces soins, ni même ces personnes existaient. J'ai appris leur existence ici.
Est-ce que parler à des gens qui sont des professionnels, ça vous aide ?
Ça m'aide beaucoup. Ils me parlent doucement, ils sont proches de moi et ils essaient aussi de me montrer qu'il faut que j'arrive à oublier ce qui m'est arrivé. Et cela me soulage.
Pendant tout cet entretien, à votre côté, il y a maman Esther qui est là, qui vous serre l'épaule, qui est là pour vous porter, pour vous assister, parce que raconter son histoire comme ça, c'est très compliqué. Ça a été très important aussi de trouver des femmes de la communauté qui donnent leur journée, qui donnent leur vie et leur énergie pour vous aider.
Être aux côtés d'une professionnelle comme maman Esther, c'est très important. J'aimerais pouvoir trouver chez moi une maman Esther. Et nous sommes nombreuses à avoir subi des atrocités dans mon village, mais tout le monde n'a pas pu venir ici. Et nous aimerions avoir des mamans chéries aussi au village.
Vous allez retourner dans votre village ?
Oui, je vais rentrer. J'ai 5 enfants et je ne vis pas avec eux.
Est-ce que vous avez des filles ?
Oui, il y a des filles. Et 3 garçons.
Quelle vie vous voyez pour vos filles ?
Un avenir sombre, pas d'avenir. Parce que chez nous, on ne respecte pas la femme. La femme est considérée comme un objet. Et quand je vois mes filles, je ne suis pas rassurée.
RFI à Bukavu, 98 FM.
Reconquérir la confiance. Comment est-ce que se passent les consultations ici à Panzi ? Rachel Kavira, vous me faites signe, donc place aux dames. Allez-y, parlez-moi de ces consultations, comment ça se passe ?
Il y a d'abord l'accueil qu'ils reçoivent. Déjà, c'est quelque chose qui entre dans leur prise en charge. Parce qu'il y a des gens, des personnes là pour les accueillir à la réception, pour écouter leurs témoignages et pour écouter leurs récits. Déjà, on les met dans la confiance. C'est juste que déjà, nous sommes dans les mains des gens qui vont nous écouter, qui vont nous soigner. Et voilà, là, il y a déjà ceux-là qui vont maintenant classer ces patientes selon les catégories, qui vont voir les médecins et après les psychologues. Ce qui se passe maintenant dans la prise en charge, parce que l'assistante sociale, après avoir vu la survivante, après avoir les référé chez le médecin pour les examens médicaux, bien sûr, on les réfère maintenant chez le psychologue. Et là, le psychologue va maintenant prendre en charge, faire une écoute active avec la patiente, découvrir les besoins et la souffrance que cette patiente présente, établir un plan de diagnostic avec la patiente. Et voilà, quand nous essayons de terminer tout ça, La patiente, maintenant, on peut la référer selon le besoin qu'on a suivi et avec des techniques très spécifiques, avec des psychoéducations par rapport au traumatisme qu'il est en train de présenter, aux signes, comme l'avait dit le docteur au début, des signes avec problème des troubles post-traumatiques et avec des anxiétés. Voilà que la survivante sera maintenant soumise à une bonne psychoéducation, comprendre c'est quoi son corps. Parce que là, elle ne connaît plus c'est quoi la réalité par rapport à son corps, ce qu'elle ressent. L'image de son corps est déjà détruite, elle ne sait pas à quoi elle est vouée. Voilà comment se passent les consultations. D'abord, on remet la personne en confiance, on la redonne encore l'estime de soi, et là maintenant, on peut maintenant continuer à travailler avec elle sur l'ici et maintenant.
Docteur Patrick Koubouya, tout à l'heure, vous avez employé le terme de mutique. Certaines femmes s'enferment dans le silence. Comment on fait justement quand le travail s'appuie sur la parole pour rendre le verbe à ces femmes que la violence fait taire? Comment on fait?
Quand les malades n'arrivent pas à parler, on leur donne un papier, on leur demande d'écrire ce qu'elles ressentent parce qu'elles ne veulent pas parler. Et si elles persistent à ne pas parler, on demande l'avis du psychiatre, comme je l'ai dit. Et c'est le psychiatre qui va voir s'il va donner les psychotropes par rapport à son état d'émitisme.
Je m'adresse au psychiatre, docteur Amani Boussané. C'est vous qui allez voir dans leur installation, dans leur chambre, les patientes où elles viennent dans votre bureau en consultation. Et si c'est le cas, une fois qu'elles passent la porte, qu'est-ce qui se passe?
Des fois, nous nous déplaçons pour aller les voir dans les salles où elles sont hospitalisées. Et des fois, c'est eux qui viennent vers nous. La première des choses, c'est cette blessure narcissique que la victime présente. Vous trouvez vraiment que ça affecte, elle est vraiment perturbée, elle n'arrive pas, elle n'est même pas contente d'elle-même. Et voilà un peu, c'est ce qui est au-devant de tout symptôme qui se présente. Mais d'autre part, il y a aussi des victimes qui se trouvent dans un état de clivage. Donc, elle présente un état que lui-même vous dit qu'elle n'arrive pas à contrôler ce qui se passe autour d'elle. La plupart des temps, c'est comme ça que les malades se présentent chez nous. Et je prends l'exemple de quelqu'un qui est dans un état mutique, mais lorsqu'il doit finir par verbaliser, elle vous dit « Docteur, je ne sais pas comment cela est arrivé, je ne sais pas comment je ne parvenais pas à répondre à vos questions, je ne savais même pas ce qui s'est passé autour de moi. » C'est un peu comme ça la situation qui se passe. Maintenant, pour la prise en charge de ces mutismes-là, il y a plusieurs approches que nous mettons en place. Il y a ce qu'on appelle la technique d'immersion ou la technique de flooding. Avec nos psychologues, nous savons comment simuler un événement et similaire à l'événement vécu pour amener la patiente à verbaliser. À part cela, et nous utilisons soit des antidépresseurs, soit des anxiolytiques, mais à des courtes durées d'action pour arriver à stimuler les malades.
Alors, on a parlé de la prise en charge psychiatrique. On va maintenant parler du psychosocial. Rachel Cavira, responsable de ce service psychosocial, qu'est-ce que ça veut dire quand on travaille ici à Panzi, psychosocial?
Quand on est ici à Panzi et quand on travaille ici dans le domaine psychosocial, c'est-à-dire on doit promouvoir la personne dans tous ces aspects-là, l'aspect psychologique et l'aspect psychosocial qui est son environnement. Parce que la plupart de nos patientes nous arrivent soit abandonnées par leur mari, rejetées par leur communauté, stigmatisées même, et qui ne parviennent plus à retourner dans leur environnement respectif par peur de revivre encore les mêmes horaires.
Alors, envisager cette réinsertion, ça passe par des actes du quotidien, des gestes comme ça, quand on les voit de l'extérieur, on peut penser que c'est très anodin. Ce sont notamment les ateliers, docteur Patrick Koubouya, en tant que coordinateur médical. Vous travaillez justement sur ces ateliers aussi. Est-ce que vous pouvez nous décrire de quoi ils retournent?
Dans la prise en charge psychosociale, nous offrons l'ergothérapie aux patientes. Et à part ça, nous leur offrons aussi des sorties récréatives. Souvent, on part aux 13 km ici à Bukavu. C'est là qu'on amène les survivants de violences sexuelles pour les détraumatiser. Là, ils sont accompagnés par les psychologues et quelques APS. Et à part ça, nous leur apprenons, nous faisons aussi de l'alphabétisation ici à l'hôpital. Parce que comme vous le savez, beaucoup de nos malades, de nos mamans sont analphabètes, elles viennent des villages. Et par rapport à tout ça, elles retrouvent leur état mental comme avant. Et ça nous donne une bonne impression par rapport à notre prise en charge psychosociale.
Alors un apprentissage fabrication d'objets, on se reconstruit pas à pas, avec donc l'ergothérapie dont vous venez de nous parler à l'instant, docteur Koubouya. Reportage tout de suite dans l'ambiance de cet apprentissage thérapeutique. Alors nous sommes sous la halle dédiée aux séances d'ergothérapie et on approche d'une table où se trouvent quatre femmes. Elles sont en train d'actionner des machines, ce sont des singères anciennes formules, mécaniques, noires avec des décorations dorées. Elles sont en train de tourner la manivelle, ça se tourne à la main pour essayer de voir comment faire des points très réguliers. C'est un entraînement à la couture et on va parler avec quelques-unes d'entre elles. Bonjour, Djembo.
Bonjour, Djembo.
Votre nom ?
José Saïd.
Qu'est-ce que vous apprenez ici ?
La
vie est tellement difficile dans ma région avec les atrocités. Cette machine dont j'apprends à me servir pour coudre des habits, une fois rentrée dans mon village, ça va m'aider à gagner de l'argent pour moi et ma famille et ne plus dépendre des hommes qui m'ont repoussée. Nous sommes venus ici parce que nous souffrons. Nous étions malades et il n'y avait pas moyen d'être soignés au village. Nous avons été informés par des amis. Moi, je suis malade, comme mon bébé, et ici, on nous a aidés.
Bonjour, madame.
Bonjour. Je m'appelle Bettine Bissotti. Je suis la formatrice d'ergothérapie.
Donc là, on est devant une table avec des paniers qui sont exposés. Là, c'est votre travail avec les femmes de Panzi. Qui fabrique ces paniers ?
Ce sont les patientes qui fabriquent les paniers.
Alors, sous le terme d'ergothérapie, il y a plusieurs activités. C'est quoi précisément ces activités ?
Et dans l'ergothérapie, nous avons beaucoup de métiers. Comme nous fabriquons les paniers, il y a les coupe-couture. Et puis, nous préparons les jus d'ananas. Et tout ça. Et puis, nous faisons aussi la fabrication des fleurs. Et nous faisons aussi les chapeaux, fabrication des chapeaux. Et puis, fabrication aussi des paniers en perles, les sacs à main.
Comment les femmes viennent-elles à vos activités ? Vous allez les chercher ou c'est elles qui viennent vous voir ?
Non, c'est les mamans chéries qui les cherchent. Après, ils viennent ici. Après, et les mamans chéries les donnent les fiches. Je commence à appeler un à un. Et puis, je les donne les métiers comme elles veulent.
C'est elles qui choisissent leur activité ?
Oui, c'est elles qui choisissent les activités.
Parce qu'une fois rentrées chez elles, elles vont pouvoir continuer, elles auront appris un métier.
Oui, c'est comme ça.
Est-ce que vous parlez aussi avec les dames ou justement, quand vous faites les ateliers, c'est vraiment le moment de se concentrer sur ce qu'on fait et d'oublier les problèmes ?
Oui, je parle avec elle, d'oublier les problèmes qu'ils ont subis. Après, je leur dis que ça va passer.
Comment elles vont faire quand elles vont rentrer au village si elles n'ont pas ces machines à coudre pour continuer ?
C'est ça le problème d'ici. Si les mamans sortent avec la machine, ça sera bien. Mais pour le moment, on ne le fait pas.
L'atelier d'ergothérapie, faire appel à la capacité de résilience des femmes. On se retrouve pour la suite de notre émission enregistrée ici à Bukavu, dans l'Est de la République démocratique du Congo. Priorité santé, prise en charge psychosociale des femmes victimes de violences sexuelles à l'hôpital de référence de Panzi. Toujours en votre compagnie, docteur Amani Boussané, un psychiatre chef de l'unité psychiatrique, Rachel Kavira, psychologue chef du service psychosocial, et vous, docteur Patrick Koubouya, coordinateur médical du service survivante des violences sexuelles. Peut-être que je peux vous demander tout simplement de réagir à ce que vous venez d'entendre, ces ateliers, ces femmes qui s'expriment, et puis, en quelque sorte, l'animatrice, vous vous retrouvez pleinement dans ce qu'on vient d'entendre à travers ce reportage ? Peut-être vous, Rachel Kavira ?
On se retrouve vraiment dans ce que l'animatrice a dit. Quand il a parlé de Mama Chérie, ce sont des APS, ce sont des psychologues aussi qui accompagnent ces femmes dans l'autonomisation juste après des événements.
traumatiques qu'ils ont subis.
Docteur Patrick Koubouya, justement, ces mamans chéries, on sent que c'est un véritable pilier. Bien sûr, il y a les médecins, psychologues, psychiatres. Hier, dans Priorité Santé, on a donné la parole aux gynécologues, pédiatres, infirmières. Mais ces mamans chéries, décrivez-nous vraiment ce qu'elles font. Qui sont-elles ?
Les mamans chéries, ce sont les assistantes psychosociales. Mais si on les appelle communément les mamans chéries, c'est un jargon de notre service de SVS. Et ces mamans nous aident à l'identification des survivants de violences sexuelles. Ils font leur accueil quand elles arrivent ici à l'hôpital. Et il faut une première écoute de ces survivants de violences sexuelles. Et à part ça, elles leur donnent les kits d'hygiène pendant leur séjour ici à l'hôpital. Ce sont ces mamans chéries qui font le nez de la chaîne de prise en charge ici à l'hôpital. Elles s'occupent des malades depuis son arrivée à l'hôpital jusqu'à sa sortie. Et voire même elles font des suivis à domicile après que la malade puisse sortir de l'hôpital de Panzi. Ce sont des mamans qui nous aident beaucoup dans la prise en charge psychosociale.
Docteur Amani Boussané, vous avez des relations, vous, professionnelles avec ces mamans chéries? Comment vous travaillez avec elles?
Effectivement, maman chérie, c'est spécial pour notre maison. Maman chérie joue le rôle que jouerait la maman à la maison en cas de difficulté. Et c'est bien elle qui accueille les victimes quand elles arrivent ici à l'hôpital. Et partout, lorsque la victime présente un besoin quelconque, c'est la maman chérie qui est la première personne à aller consulter. Et voilà, même pour mes consultations, ce sont les mamans chéries qui amènent le malade. Lorsque les médecins recommandent, lorsque les psychologues recommandent, de voir le psychiatre, c'est la maman chérie qui prend soin de la patiente, la transporte jusqu'à mon cabinet pour la prise en charge.
Et même des fois, elle reste en consultation pour lui tenir la main ou elle sort le temps de la consultation, de l'entretien médical?
Non, non. Tenant compte du secret médical, la maman chérie reste en dehors du cabinet lorsque je suis en entretien avec la patiente. Et par après, et lorsque je fais des observations par rapport à la prise en charge, et lorsque j'ai besoin d'intégrer maman chérie dans l'accompagnement, là je l'appelle, je lui explique ce qu'elle devra faire par rapport à la prise en charge de la patiente.
Alors on vous propose justement de rencontrer l'une d'entre elles, hein. C'est Esther, assistante sociale, autrement dit on l'a compris, maman chérie ici à Panzi.
Nous avons chaque jour les nouveaux cas, les nouveaux cas, les nouveaux cas. Alors il faut faire de la répétition. Il y a parfois que nous faisons les psychoéducations concernant l'hygiène corporelle. Alors on sensibilise chaque jour, suivant les cas quand ils se présentent. Parce que nous avons les cas de viol, de moins de 72 heures. On sensibilise, on fait les counseling, les soutiens psychologiques et le renforcement de la résilience. Il y a parmi même nos chéries mamans et les filles qui étaient violées, qui nécessitent une nette, thérapie nette.
C'est quoi,
nette? On fait une ligne de vie. Sur une ligne de vie, on fait une corde qui est comparée à la vie d'une personne. Alors, dans la vie d'une personne, il y a des fleurs, il y a des pierres. Des pierres, ce sont les mauvais moments qu'on a vécu. Et les fleurs, ce sont les bons moments qu'on a vécu. Ça ne se fait pas en un jour. Ça prend du temps pour retourner dans la vie normale. Et il y a ce qui nécessite même à la sortie, parce qu'elle ne peut pas demeurer ici. À l'hôpital, ce n'est pas l'endroit où à demeurer tout le temps. Il faut qu'elle rentre à la maison. Alors, quand elle rentre à la maison, il y a ce qui nécessite un suivi à domicile. Alors, on fait les programmes. On prend l'identité complète de la patiente. Alors, on est libre d'aller chercher la patiente pour faire soit une médiation familiale. Il y a ceux qui nécessitent ça. Parce qu'il y a ceux qui sont abandonnés par leur mari. Beaucoup de femmes qui sont rejetées par leur mari à cause du viol.
Ils acceptent les hommes de bonne... comme ça, ils disent ok, on va discuter,
non,
ou ils sont en résistance?
Il y a parfois ceux qui sont résistants. Et il y a ceux qui libèrent et demandent même les pardons chez leurs femmes. Alors ça nous donne de la fierté parce qu'on a réussi la mission, n'est-ce pas? Mais quand elle est arrivée avec les céphalées, maux de tête chaque jour, les cœurs bas, elle se souvient de tout. Parfois, s'il y a un homme qui vient un homme qui est en tenue militaire ou bien avec une arme. Il se souvient de ce qui s'était passé. Il y a parfois que ici dans notre petite forêt, là, c'est pas de forêt, mais si c'est une grosse forêt, et ils se cachent là-bas.
Elles sont terrorisées. Ça veut dire que ce que vous nous dites, c'est qu'il y a des moments très durs quand elles arrivent, mais à la fin de tout votre travail, vous sentez une grande fierté, c'est ça ?
C'est ça, la fierté. Nous les accompagnons même ici, parce que ici, elles sont bien encadrées, prises en charge psychologique, prises en charge médicale. Il y a beaucoup qui ont des plaintes. Et on les accompagne, on les oriente à la clinique juridique.
On va aller voir l'activité, vous me redites juste votre nom.
Oh, moi je m'appelle Maman Esther, Mounierenkana Nakashunjo Esther.
Alors ici à l'hôpital de Panzi, on l'a compris au travers de la première partie de ces émissions, des moments très durs, mais aussi des moments de joie, des moments de fête. Rachel Kavira, quand on entend cela, ce que nous avons enregistré justement il y a quelques jours, ici même dans ces murs, c'est quelque chose qui se passe tous les jours, cette capacité de résilience qui s'entend à travers cet éclat de vie.
C'est quelque chose qui se fait presque chaque matin. Avec les mamas chéries que vous avez attendues, et ils le font avec les patientes. Chaque matin, c'est une animation. Ils doivent les amener à quitter dans leurs états de traumatisme et dans leur détresse totale. Et ils organisent des séances de psychoéducation, des séances de détraumatisation par des chants et des chants qui aident le mama chérie à être vraiment dans un état d'exaltation. Ça s'est fait aussi dans ce que le docteur a dit, dans les sorties récréatives avec les patientes. On les amène à découvrir un autre monde de vie que ce qu'ils ont déjà intériorisé dans leur corps après tous les traumatismes déjà passés. Donc c'est une ambiance qui se fait chaque matin et chaque jour avant de commencer toutes les activités, avant d'aller chez les médecins, avant d'aller chez les psychologues. Chaque matin, les mamas chéries font ça avec les patientes.
Et on peut en même temps repérer, docteur Patrick Koubouya, certaines femmes qui vont rester isolées du groupe et qui sont dans une détresse telle qu'elles n'arrivent plus à intégrer ces moments de communion.
Oui, oui, on a de ces femmes-là qui, malgré toutes ces animations matinales que font les mamas chéries, n'arrivent pas à quitter de leur état émotionnel. Dans ce cas-là, le psychologue lui propose certaines thérapies qui l'aident à quitter de son état émotionnel.
Alors, on a entendu tout à l'heure à Maman Esther qui disait que des fois, elle suivait certaines patientes, elle les accompagne quand il y a le moment de rentrer à la maison, de rentrer au village. Sur cette partie, justement, docteur Amani Boussané, quand elles rentrent dans la communauté, il y a des indications particulières où elles vont suivre la patiente comme ça, de façon autonome. Comment est-ce que ça se passe ?
En fait, lorsque la patiente quitte l'hôpital pour rentrer à la maison, cela ne veut pas dire qu'on a intégré vraiment les traumas, parce que c'est tout un processus. Et pour rentrer à la maison, on doit d'abord se rassurer sur les terrains.
Mais docteur Boussané, quand on n'arrive pas à faire entendre raison aux proches, si le mari reste toujours dans le rejet de son épouse, comment est-ce qu'on fait ?
Le travail se tourne vers le mari pour ce que nous avons l'habitude de dire, la masculinité positive. Donc nous nous focalisons sur le mari, lui faire comprendre le bien fondé, lui montrer la part des choses, comment sa femme n'était pas responsable de ce qui est arrivé, et voir la plupart des hommes arrivent à comprendre et arrivent à accepter et à accueillir leurs épouses.
Vous prenez en charge les survivantes, les patientes. Est-ce que d'une certaine manière également, docteur Patrick Koubouya, est-ce que vous ne soignez pas la communauté ?
Nous travaillons avec les associations partenaires, nous travaillons avec la police et les églises. Alors, avant que les malades sortent, nous entrons en contact avec ces associations partenaires qui nous les ont référées. Et après les sorties des malades, on travaille avec ces associations partenaires et la communauté dans laquelle la malade sera intégrée après sa sortie ici à l'hôpital de Panzi.
20 années d'existence pour Panzi, mais j'imagine que tout ne s'est pas fait en un jour. Est-ce que vous avez le sentiment, Rachel Kavira, aujourd'hui, que vos activités, notamment en dehors de l'enceinte de l'hôpital ou de la fondation, eh bien que ces activités sont de mieux en mieux accueillies par cette communauté?
Après 20 ans d'existence, oui. parce que vous allez vous rendre compte, comme on l'a dit, avec dans les activités que nous faisons ici à l'hôpital de Ponzi, en dehors de ça, il y a vraiment l'accueil chaleureux de ces activités parce qu'on parvient même à réunir la personne qui était déjà bien rejetée avec sa famille. Grâce aux techniques de médiation familiale, grâce aux techniques de sciences de systémique où on intègre même, voire même les chefs de quartier, les chefs du village, même tous ces gens-là. En dehors même de l'hôpital de Ponzi, les activités continuent parce que nos patientes quittent l'hôpital avec confiance qu'ils vont intégrer une société qui va les accueillir. Et donc, les traitements continuent même en dehors de l'enceinte de l'hôpital de Ponzi.
Vous savez que jadis, dans notre communauté, la femme est abusée sexuellement.
Docteur Amani Boussani.
C'était une femme qui était rejetée car elle était considérée comme souillée. Tout simplement parce que les viols dans notre culture étaient assimilés à l'adultère. Et voilà, la femme n'avait pas sa place. Elle avait perdu cette place initiale une fois abusée. Mais avec le travail dans l'approche communautaire centrée sur la personne, et quand même, nous pouvons dire que nous avons réussi à transformer les idéaux au niveau de la communauté. Maintenant, la femme est considérée, bien qu'elle a été abusée sexuellement, maintenant elle est considérée par la communauté, elle n'est plus rejetée comme avant et elle a trouvé sa place. Ça, je peux dire que c'est quand même le point fort du travail que la Fondation Ponzi a fait, là où nous intervenons. Mais aussi, je peux dire que ce n'est pas seulement la victime directe, dans la famille, il y a aussi ce qu'on appelle les victimes indirectes. Les personnes qui ont assisté aux agressions sexuelles, ceux qui ont entendu les agressions sexuelles et aussi présentent quelquefois les symptômes. Et le fait d'accompagner la patiente dans la communauté, ça permet aussi de découvrir ces symptômes et de les prendre en charge.
Retrouver d'autres patients potentiels.
Voilà.
Depuis le début de l'émission, on parle du post-traumatisme. Petit tour de table maintenant sur la prévention. Vous allez dans la communauté pour traiter. Est-ce qu'il y a des actions justement pour essayer de changer la donne avant que cela n'arrive? Est-ce qu'il y a un travail de prévention?
Ponzi a intégré, a appuyé le gouvernement congolais dans l'intégration de soins de santé mentale à soins de santé primaire. Donc, de la communauté, de la base communautaire jusqu'au niveau central, nous avons formé les relais communautaires, les leaders communautaires, comment reconnaître, comment prévenir et comment protéger. Et
tout à l'heure, vous parliez justement de l'image des femmes violées au sein de la communauté. Il faut peut-être aussi rappeler l'image de la santé mentale au sein de la communauté. Le fou, il était banni, il était considéré comme sous le coup peut-être d'une malédiction. On ne soignait pas les gens qui avaient des problèmes de santé mentale.
Effectivement, ça c'est la représentation socioculturelle de la personne malade mentale. Et ça aussi s'observe chez les victimes de violences sexuelles. Une fois abusée sexuelle, à la longue, elle développe les troubles mentaux. Et quand elle développe ces troubles mentaux, la communauté pense d'abord à l'ensorcellement, à la malédiction, à une transgression. Et ce n'est qu'à la longue, après avoir été en contact avec un personnel soignant formé en santé mentale, qu'ils vont découvrir qu'il y a une corrélation entre la santé mentale et ce qui est arrivé. Donc, avec ce processus d'intégration de soins de santé mentale à soins de santé primaire appuyé par la Fondation Ponzi, la communauté commence à comprendre que les manifestations que nous avons chez les soi-disant fous ou folles, ce n'est pas vraiment de la sorcellerie. Ce sont des manifestations qu'on peut retrouver comme des étiologies chez d'autres pathologies.
Sur cette question de la prévention, j'aimerais vous donner la parole, Rachel Cavira. Vous allez expliquer ce que vous faites. Pourtant, ce que l'on entend, c'est que ces femmes violées sont de plus en plus nombreuses. Alors des fois, est-ce qu'on ne se dit pas à quoi ça sert tout ça?
Oui, c'est tout à fait normal. Elles sont de plus en plus nombreuses. Parce que les acteurs qui abusent d'eux, parfois on dit que c'est un gap parce qu'ils ne sont pas pris en charge. Et ça, c'est un grand problème parce qu'il y a toujours production de ces femmes victimes de viol.
Les agresseurs restent dans la nature, ils ne sont pas condamnés.
Oui. Et ça fait à ce qu'on travaille, mais les femmes retournent dans les villages, dans des insécurités très probables et que Donc, on essaie de faire le mieux.
Docteur Patrick Koubouya, retourner au village et retourner côtoyer, disons, son voisin ou un paysan du coin qui a violé cette femme, c'est véritablement traumatisant. Même si ici, vous la soignez, de la remettre entre les mains de son bourreau, c'est quelque chose de terrible.
Oui, c'est terrible vraiment par rapport à ça. Parce que ce sont des malades qui rentrent dans leur village, leur communauté. Et il y a des fois où elles portent plainte, on arrête l'agresseur. Et une fois rentré dans la communauté, il retrouve encore celui qui l'a abusé. Ou bien les mêmes groupes armés qui pillent dans les villages continuent à violer parce que le pays n'est pas intéressé à les chasser là où ils font les mauvaises choses à nos femmes. Et à part ça, il y a des jeunes qui ont été démobilisés, qui étaient des militaires. Ce sont des cas pareils que nous recevons dans la ville de Bukavu. Ce sont des jeunes démobilisés mais non encadrés qui abusent de nos femmes dans la ville de Bukavu. C'est que si le gouvernement s'impliquait dans tout ça, je pense que le nombre de viols pouvait régresser dans notre pays. Et parlant toujours de la prévention, nos amis ont parlé de quelque chose, mais nous aussi, nous faisons des émissions radio, là où on parle des droits et devoirs de la femme. On parle aussi de la prise en charge des suivants des violences sexuelles. On donne nos conseils par rapport à l'urgence de celle qui a été abusée dans les moins de 72 heures. Au lieu d'aller porter plainte, il faut qu'elle vienne d'abord à l'hôpital pour qu'on puisse prévenir certaines maladies.
Prévenir le VIH-Sida et prévenir aussi les grossesses non désirées, c'est très important. Ouais. On aborde la dernière partie de notre émission Priorité Santé. Depuis hier, on vous fait découvrir le quotidien des patientes, des soignants, des acteurs impliqués dans ces soins activités. Ici à l'hôpital de référence de Panzi, cette structure holistique fondée, portée par le docteur Denis Mukwege. Vous vouliez réagir par rapport à ce qui vient d'être dit, docteur Amani Boussane, je vous laisse la parole.
Oui, par rapport à la prévention, je voulais ajouter quelque chose. Et il y a plusieurs aspects, et si je peux dire, le travail qui s'est fait sur plusieurs échelles. Donc, par la sensibilisation, il y a la sensibilisation qui est focalisée sur comment transformer les idées de la communauté, que la communauté comprenne le bien fondé de protéger la femme et non de l'abuser. Il y a les sensibilisations qui sont focalisées sur les hommes en termes de masculinité positive. Et il y a aussi des sensibilisations focalisées sur la femme pour briser le silence. Que la femme arrive quand même à dénoncer, à parler et aussi à lui montrer ses droits et ses devoirs. Et ce sont des axes vraiment que nous sommes en train de beaucoup nous y mettre pour arriver à combattre la violence sexuelle.
Vous me permettez justement d'aller à ma conclusion, hein. C'était justement le point que je voulais aborder. Vous soignez, vous réparez les femmes. Il est aussi peut-être question surtout d'éduquer les hommes, de changer les comportements de façon structurelle, d'arrêter de se cacher derrière la tradition, derrière les fausses croyances, derrière les préjugés. Deux hommes, une femme autour de cette table. Qu'est-ce qu'il faut changer aujourd'hui chez l'homme congolais pour qu'il traite mieux la femme congolaise et ici la femme du Sud Kivu? Je vais d'abord vous donner la parole, messieurs, avant de laisser la conclusion à Rachel Kavira. Qu'est-ce qui ne va pas chez les hommes ici, dans cette région? Bien sûr, on ne généralise pas, mais en tout cas, chez ces hommes qui font tant de mal aux femmes. Vous êtes psychiatre, docteur Amani Boussane. Vous avez des éléments d'explication?
Il y a plusieurs facteurs qui interviennent dans cette situation. L'homme qui abuse la femme est loin d'être malade mental. Il y a beaucoup de situations qui sont incriminées. Et la violence, lorsque c'est utilisé comme une arme de guerre, vous voyez qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont là derrière et qui font que la femme, elle est toujours exposée à être victime et à être abusée. Et aussi, je dirais que depuis 50 ans, nous étions en train de soigner la femme, mais aujourd'hui, nous sommes en train de soigner la communauté. Nous sommes en train de soigner la communauté en termes de prévention, réduire les agresseurs et aussi réduire les traumas, parce que ceux qui vivent avec le traumatisme aujourd'hui, dans notre milieu, dans notre pays, ils sont plus nombreux que ceux qui ne vivent pas avec les traumas.
Société congolaise traumatisée, contexte sécuritaire, docteur Patrick Koubouya, qu'est-ce qui arrive aux hommes du Sud Kivu?
En fait, les hommes du Sud Kivu se retrouvent impuissants face à ces fléaux des viols, parce que s'ils avaient les moyens d'intervenir, ils allaient le faire. Mais malheureusement, ceux qui font ces viols sont des groupes armés, alors que la population elle-même, et les hommes et les femmes, ne sont pas armés.
Ils n'ont pas les moyens de protéger leurs femmes.
Ils n'ont pas les moyens de protéger leurs femmes, ce qui fait à ce qu'ils se retrouvent impuissants. Et qu'à cela ne tienne, on peut continuer avec la sensibilisation des hommes, parce qu'il n'y a pas de femmes sans hommes, comme il n'y a pas d'hommes sans femmes. Je pense qu'il faut qu'on se soude les coudes entre hommes et femmes pour booster ce fléau des viols et des violences sexuelles.
Il ne s'agit en aucun cas, Rachel Cavira, d'élever les hommes contre les femmes, ni les femmes contre les hommes, mais c'est de retrouver une harmonie.
Normalement. Donc, traiter les hommes au même titre qu'on traite les femmes, ça serait quelque chose qui peut les aider, parce que tous ces hommes aussi sont traumatisés par les conditions de vie, par les conditions aussi des pays. Et parfois, ça peut entraîner aussi tout ce qui se passe dans le pays et aussi les violences contre les femmes. Donc, c'est une lutte qu'on doit continuer à faire. Comment aider, comment aussi combattre, comment aussi protéger aussi ces hommes qui sont dans la brousse et aussi aider ces femmes qui sont en train d'être violées, mais tout en aidant ces agresseurs-là, parce qu'eux aussi en ont besoin aussi d'un soin supplémentaire.
Vous en voyez le bout? Vous voyez un jour où ça ira mieux ou vous êtes désabusé?
Nous pensons que ça pourra arriver une fois. La justice sera bien prise en compte, je pense. Tout ça, ça peut se régulariser si une fois le pays s'y met, et tous les politiciens s'y mettent, et tous les hommes s'y mettent, parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit le docteur, on a commencé par la femme lui-même, on entre déjà dans la communauté et très bientôt peut-être ça sera tous les pays.
Ça se passe ici à Bukavu, mais peut-être que ça se décide un petit peu du côté de Kinshasa.
Justement, et nous pensons que le gouvernement actuel pourra travailler avec les médecins directeurs pour que ça puisse vraiment aller de l'avant.
En tout cas, le message est lancé. Merci beaucoup. Notre émission touche à sa fin. Nous remercions toute l'équipe de l'hôpital pour cette disponibilité, notamment vous, docteur Koubouya, pour votre collaboration pour préparer ces émissions. Vous nous avez bien aidés. Je rappelle que vous êtes coordinateur médical du service survivante des violences sexuelles. Merci aussi, bien sûr, à toutes les patientes qui ont bien voulu témoigner, nous parler, nous côtoyer. Merci à vous, Rachel Cavira, psychologue, chef du service psychosocial. Et à vous, docteur Amani Boussané, psychiatre et chef de l'unité psychiatrique. Je me répète, mais c'est fait exprès, hein, c'est fait exprès, c'est assumé. Encore un grand merci pour votre accueil ici à l'hôpital de Panzi, de nous avoir permis d'y enregistrer ces deux émissions de priorité santé préparées, coordonnées par Ophélie Lassène, réalisées par Richard Rifono. Lundi, autre cadre, retour dans nos studios. On va parler de la santé de la peau, question sur la santé dermatologique. On attend vos appels 33 84 22 75 75 sur la page Facebook de l'émission. Nous nous retrouvons lundi. D'ici là, portez-vous bien où que vous soyez, partout dans le monde où vous écoutez RFI. Au revoir Bukavu et à très bientôt, la République démocratique du Congo.
Vous avez suivi Priorité Santé avec Suno Assurance. N'oubliez pas de renouveler votre assurance automobile et passez de belles fêtes de fin d'année avec vos proches, vos amis et vos connaissances. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.